dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Le côté troupeau en montagne, je sais pas, enfin il y a quelque chose, du coup c'est fusionnel, c'est... Tous les jours, tu as une montée d'émotion parce que c'est beau, quoi. Juste, ouais. C'est tout bête, mais de choisir un métier parce que c'est joli, quoi. Voilà. Si tu veux, c'était pas le métier fantasmé ou. C'est vrai que c'est un métier pas mal à la mode, je crois. J'ai l'impression, ouais. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est avec l'arrivée du loup, du coup, le métier de berger, il faut du berger et du coup, tu trouves du travail, quoi. J'ai l'impression que de faire ça, pour moi, ça a du sens, quoi.
Ouais.
Dans le côté, mon rapport avec la nature et j'ai l'impression de participer quelque part à quelque chose qui est intéressant du point de vue... Bah ouais, l'écologie, enfin... C'est dur à voir, tu pleures, Après, t'as une parano qui se met en place où t'es jamais confiant, t'as toujours l'impression qu'il va... De toute façon, maintenant tu sais qu'il est là, Il n'y a que quand ça t'arrive, en fait, que tu t'en rends compte vraiment de ce que ça fait, en fait, le loup.
Autrefois, sur les hautes terres de l'Aubrac, dans une autre vie, bardée de son diplôme d'accompagnatrice en montagne, Camille Devoile menait les groupes de touristes à la découverte de la faune et de la flore. Mais un jour, vers la trentaine, elle décide de tout arrêter pour devenir bergère. Dans Dissonance de ce mois-ci, Camille Devoile et son chien Tatane invitent les auditrices et les auditeurs à les suivre sur les rondeurs du Cosméjan, en Lozère, le temps d'une journée de travail de berger, le temps d'en apprendre davantage sur ce métier. Doit-on le fantasmer? Est-ce la belle vie tous les jours? Quelles sont les conditions de travail? La force de conviction de Camille, sa voix ensoleillée, ses propos clairs et passionnés attestent de l'amour qu'elle porte au métier de bergère. Dans Dissonance de ce mois-ci, il sera question de montée d'émotions, de pastoralisme, d'écologie et même de berger pirate. Camille évoquera bien entendu le loup avec sa vision de bergère et d'écologue.
Tatane !
Il est 9h du matin. Le soleil caresse les rebords des falaises du Cosméjan.
Tatane !
L'éleveur lâche ses brebis et Tatane et Camille rentrent en action. C'est parti pour un voyage sonore dans le quotidien des bergers.
Allez les filles ! Il n'y a pas besoin de les appeler, tu vois. Ça, c'est déjà le premier placement parce que je veux pas qu'elles aillent là. Tatane, tu viens. Tatane, viens à pied. Je veux pas qu'elles aillent là, donc je me place ici avec le chien à mes pieds. Comme ça, au moins, elles vont droit devant. Au départ du parcours, j'ai tendance à me mettre derrière parce que, si tu veux, là, c'est l'herbe que du tour de ferme, de l'herbe verte et grasse. Et ça, je me le garde pour le soir, en fait. Donc en fait l'idée c'est non les meufs on s'arrête pas ici, on trace, on va là-bas dans les bois. Et ça je vous le réserve pour tout à l'heure. Parce que sinon là si elle choisissait, elle resterait là, elle gratouillait. Tatane tu viens. C'est parti.
9h30,
c'est
ton rythme de...
C'est à peu près ça.
Quotidien, quoi.
Ouais.
Quel que soit le temps, la neige... Le vent, le froid.
Non, bah, quand je vois qu'il a fait des grosses gelées la nuit, j'attends un peu plus que déjà la gelée fonde. Que, bah, là, tu vois, ce matin, par contre, c'est tout sec, c'est parfait. Les brebis, il ne faut pas les sortir dans l'humide, parce que sinon, après, elles sont fragiles au niveau des onglons, au niveau des pattes, quoi.
Ouais.
Et elles peuvent choper des saloperies.
D'accord.
Encore, Tatane. Allez, pousse. Tatane. Ça va là, ça va. Viens. Viens. Ce que j'aime bien avec ce chien, c'est qu'elle fait doucement, quoi. Parce que si t'as des gros bourrins de chiens, si tu veux, à chaque fois qu'ils travaillent, t'as le troupeau qui fait un kilomètre de chaque côté, à chaque fois que t'envoies le chien. Elle, elle a ce côté un peu fin, tu vois, où elle fait doucement, les brebis, ouais. Tu vois. Elle... De toute façon, c'est le chien qui fait tout. Hein.
Oui, mais c'est,
c'est le prolongement c'est... de notre cerveau.
Voilà,
le
c'est toi qui le guide.
Voilà, ouais. Allez, 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 allez.
Pour être tout à fait honnête, comme je n'ai rien à vous prouver, je vais vous dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Que deux hommes se marient entre eux du moment qu'ils sont amoureux et qu'ils aiment leurs enfants, évidemment. Et pour être tout à fait franc, comme je n'ai rien à vous cacher, tout ce qui pense et autrement, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait clair et pour nous connaître mieux, je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain, si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser, vous avez compris la musique, vous m'emmerdez. Pour être franco de port, en y allant de but en blanc, j'ai eu beau faire tant d'efforts sur tant d'années et par tout temps. Je ne comprendrai jamais rien aux riches qui veulent toujours plus d'argent pour le cacher en fiscale niche comme c'est navrant. Je vais le dire simplement, emportez-les sous terre six pieds et avec eux tout leur argent, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux, je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie de tous vos dieux. Je ne peux faire un pas dans la rue sans tomber, ô bon Dieu, je ris, sur une croix, un fou la rue, une Vierge Marie. Comment le dire sans rancœur, loin de vos mosquées et clochers, s'il vous plaît, priez dans vos cœurs sans m'emmerder. Soit nous avons fait connaissance, il serait bon de vous dire la vérité en toute conscience qui pourrait nous anéantir. Ne me donnez jamais le pouvoir, je serai bien plus loup que vos loups. Demandez donc à ma guitare si je suis fou. Alors je reste dans mon coin, sans autre forme de procès que de vous chanter ce refrain, vous m'emmerdez. Et je n'ai nul autre besoin, vous priant de me pardonner, que de vous chanter des refrains pour vous emmerder.
Dissonance.
Va devant, pousse.
Avec Camille Devoile.
Tatane au dernier, allez mon chien. Ce qu'on fait la journée quand t'es berger, c'est tu t'essayes de faire manger au mieux tes bêtes, tout en essayant de, d'avoir un regard de, sur l'herbe, sur tes ressources, et essayer de préserver pour l'année suivante, tu vois. Essayer d'améliorer tes parcours en faisant manger au bon moment. Il y a des zones que tu essayes de faire tanner, il y a des zones que justement tu fais juste qui passer parce que c'est fragile et tu sens qu'il ne faut pas tout arracher. Ce que je fais là, en fait, c'est du travail, on dit qu'on travaille en colline, quoi. Bon, là, c'est pas vraiment de la colline, le Cosméjean, mais après, c'est vrai que l'hiver, souvent, t'es à la ferme. Donc, du coup, t'es obligé de travailler avec ton patron, quoi.
Et oui.
Alors que quand t'es en estive, par contre,
t'es en autonomie, quoi.
T'es en autonomie, t'es peinard, et c'est pour ça que moi, je préfère l'été, quoi. Si tu veux, quand t'arrives sur une estive que tu connais pas, t'as quand même, en général, quand même le groupement pastoral ou l'éleveur, il t'explique vite fait quand même les quartiers. Parce que t'as différents quartiers à faire manger selon la saison. Donc, t'as ton quartier de juillet, d'août, d'automne. Et après, c'est toi qui gère tout ça, quoi. D'accord. Qui voit au mieux ce que tu peux faire, tout en quand même prenant un peu ce qu'on t'a dit au départ, quoi, par rapport à ce qu'on fait les bergers avant.
D'accord. Et une période d'estive, ça dure 3, 4 mois, 5 mois, plus ?
4 mois en général.
4 mois.
Ouais. Tatane ! À la base, moi, berger, j'y connaissais rien en brebis. Hein. Ça fait que 5 ans que je côtoie ces bêtes-là, quoi.
Et le pas, alors le premier pas, c'est...
Bah après, je me suis trouvé un berger, comme c'est plus pratique.
Voilà, t'as commencé par le berger et après t'as fait les brebis.
Voilà, c'est d'accord. Ça. Et après, c'est vrai que tu tombes vite dans le... Enfin, t'as une fusion avec le troupeau qui fait qu'après tu t'y attaches... Enfin, moi en tout cas, ça a marché, quoi. Je me suis très vite attachée à ça. Et du coup, ce que j'aimais aussi, c'est le côté, j'ai gardé, donc du coup, j'ai réussi à conserver un métier qui me permettait de rester en montagne. Puis le côté troupeau en montagne, je sais pas, enfin, il y a quelque chose, du coup, c'est fusionnel, c'est... Tous les jours, t'as une montée d'émotion parce que c'est beau, quoi, juste, ouais. C'est tout bête, mais de choisir un métier parce que c'est joli, quoi, voilà.
Et tu penses à ça aussi, même quand tu es dans le vent, la pluie, la neige, le froid?
Oui, t'as des journées désespérantes aussi, hein, mais bon, après, ça, c'est tous les métiers, je pense. Tatane à gauche! Allez, pousse-les, là! Oui, t'as des moments durs. Après, t'as des inconvénients, c'est sûr, hein, dans ce métier-là aussi. Hein. Le plus dur pour moi, c'est de se prendre les éléments au niveau du... La peau, le visage, t'es tout le temps dehors, tu te prends toujours le froid, le vent. Enfin, moi, c'est surtout le soleil, quoi. J'en chie à ce niveau-là, quoi. Ah oui, c'est, ouais. Mais voilà, ce que je te dis, c'est que les trucs en ce moment qui me cassent les biais, c'est l'attirance pour les prés, les pistes qui font qu'elles s'endraillent et puis elles font les nœuds à avancer tout droit sans réfléchir. Et après aussi, des fois, t'as des coupes de bois, et c'est des lignes, ouais, et c'est pareil, ouais, quoi. C'est... Ouais. Mais tu vas voir, quand on va passer de l'autre côté, c'est beaucoup mieux, c'est magnifique. Et puis là, t'as une ambiance de sous-bois qui est géniale.
T'as jamais eu envie, Camille, de prendre un carnet, un stylo, un appareil photo, de faire des photos, de faire un bouquin?
Moi, j'arrive pas. Non.
Dommage, tu ferais partager, puis tu dois avoir des spectacles magnifiques, quoi.
Ouais.
Selon le brouillard, la pluie.
Ah non, mais je te dis, moi, des montées d'émotions, tous les jours, t'en as au moins une qui te prend, quoi. Après, les photos, j'ai du mal parce qu'il faut trimballer quelque chose et moi, ça m'a alourdi mon sac et je peux pas. Tu vois, genre, entre la biasse, tes vêtements de pluie que tu prends. Là il fait chaud mais j'ai mon gros manteau parce que le soir tu restes jusqu'à la nuit, parce que pour bien faire manger les moutons normalement il faut les rentrer à la nuit, parce que le soir c'est là où elles profitent le mieux, où elles se calment, où elles s'emplanent comme je te disais tout à l'heure. Et voilà, donc si tu veux bien faire ton taf, ouais, il faut les sortir tôt, il y a un moment où elles chôment, mais c'est hyper important parce que c'est là où elles vont ruminer. Et si elles n'ont pas ce moment où elles ruminent, et ben du coup, elles mangeront mal le second repas de l'autre moitié de journée, quoi. Donc voilà, faut y être, quoi. Encore ! Allez ! Ça va, ça va !
Il t'est arrivé des fois de te faire avoir par le troupeau qui part dans un endroit où tu voulais vraiment pas qu'ils aillent?
Ça, c'est quasiment tous les jours. Hein.
Et comment tu fais alors? C'est ton chien, c'est...
Déjà, il faut pas trop s'endormir. Il faut toujours avoir l'œil le troupeau. Mais surtout dans les bois, tu verras, par moments, tu vois 10 brebis, hein, sur l'ensemble.
Ah ouais.
Et ouais, tu vois rien, quoi. Allez! Elles sont têtues, hein, quand même. Allez, quelqu'un, l'exemple.
Et les patous, là, ils t'aident pas du tout dans la conduite du troupeau?
Non, c'est pas du tout leur boulot. Leur boulot, c'est de passer devant, aller voir s'il n'y a pas un danger.
D'accord.
Après, toi, là, parmi les trois patous, t'en as un qui reste un peu au milieu, c'est le jaune.
Ah oui.
Lui, il a pris ça de sa mère. Sa mère, elle est tout le temps au milieu du troupeau, quoi. Et après, les autres, ils vont un devant, un derrière. Et puis...
D'accord.
Ils font la sécu, quoi, en fait. Hein.
Et celui qui est au milieu du troupeau, il fait quoi? Enfin, c'est quoi son boulot?
Il rassemble, je pense. Parce que les bêtes, après, elles ont... si tu veux, elles ont l'habitude avec ces chiens-là aussi, quoi, tu vois.
Ouais.
S'il y a le chien au milieu, elles ont tendance à rester près de lui, tu vois.
D'accord, c'est vrai, quoi. Ah, ça y est, elles ont pris la direction que tu voulais qu'elles prennent, là.
Ouais, c'est bon, déjà. Allez!
T'arrives, Camille, à quantifier le nombre de bornes que tu peux faire dans une journée?
Ça, ouais, ça dépend des jours. Les journées qui se passent bien, tu t'avances presque pas. Hein. Les journées qui se passent mal, où t'as... moins de ressources, ou elles vont moins trouver à manger, ou c'est plus pauvre, ou si jamais parfois quand il pleut, par moment, elles ont besoin de marcher pour se réchauffer et tout ça, ouais, tu peux facilement faire, je sais pas, moi je dirais...
Des heures de marche, quoi.
Plutôt en heure.
Tu disais aussi que tout à l'heure, qu'il y avait un moment dans la journée où il y avait un moment où elles étaient statiques, hein, qu'elles ne bougeaient plus.
Ouais, ben ça veut dire ça, c'est quand la journée s'est bien passée, on va dire. Ah. Quand elles commencent, on dit ça quand elles s'emplanent. Et ça veut dire que du coup, elles ont mangé suffisamment pour être au calme et pour pouvoir... moi, avoir ce côté, tu vois, où elle mange un peu, mais en masse, en avançant, quoi. Et il y a des moments où, du coup, quand elles ont déjà mangé, elles s'éclatent et elles sont calmes et elles mangent juste autour d'elles, quoi. Elles n'ont pas besoin d'avancer tout le temps pour aller chercher l'autre herbe qui sera meilleure là-bas. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu as gagné la journée et qu'elles ont, voilà, elles ont bien profité. Et voilà, ben après, tu le vois aussi au niveau du ventre, si elles ont le ventre rond ou pas.
Donc le fait qu'il n'y en ait que quelques-unes qui avancent, ça fait bouger tout le troupeau, ou alors...
C'est ça. C'est donc... le côté grégaire de la... de la brebis. Mais de toute façon, si elles n'avaient pas ce côté grégaire, ça serait ingérable.
Oui, parce qu'elles
partiraient... Parce que tu aurais des moutons dans tous les sens, un qui descend, les autres qui montent, qui partent dans tout... Ouais.
Ah ouais, ouais.
Non, mais elles ont... De toute façon, tu finis par les connaître quand même. Hein. Ouais. T'as tes repères, t'as l'impression qu'elles sont toutes pareilles, mais pas du tout, quoi. En général, tu connais quelques sonnaillères, parce que souvent, il y a quelques familières qui portent les sonnailles, et puis après, c'est souvent des meneuses, c'est souvent Puis en fait, chaque sonnaille a son son très particulier. Donc, en plus de l'aspect physique de la brebis, tu la connais aussi au tintement de... Pas tu vois, moi, c'est à l'oreille, quoi.
Ah ouais. Une habitude.
Ouais.
Et après, au caractère, tu les repères aussi.
Et au caractère.
C'est celle qui est chiante, celle qui est douce.
Souvent, tu connais plus les chiantes que les gentilles.
Ah
ouais, c'est ça qui est dommage.
Ouais.
Et ouais, les gentilles, elles sont au milieu. Elles bougent pas, quoi. Donc souvent, on connaît un peu plus les vilaines.
Inventer un bistrot tout près de chez moi, pour les poètes, pour les poivreaux et pourquoi pas. Je me suis glissée dans ce bistrot à petits pas, pour voyager dans leurs histoires qu'on ne croit pas. Il y avait trop de vent sur la mer et trop de vagues dans leurs verres, et ils se sont noyés parfois. Et sur la terre, ils me parlaient de toutes les femmes qu'ils aimaient et de celles qui ne les aimaient pas, mais qui, quand même la nuit tombée, dans un bordel au cabaret, se donnaient entre leurs bras. Et derrière votre regard sévère qui donne l'impression d'un homme fier, y a plus que quelques rêves brisés. Par la société, comme vous dites, et par ces vieux cons hypocrites à qui vous ne voulez pas ressembler. Vous préférez de loin votre histoire, monsieur, et votre réputation de vieux fou. Vous préférez de loin votre bar, monsieur, et plutôt que con, vaut mieux être sous. Et sur vos tabourets de bar, vous êtes là bien le pilier dans toutes ces belles histoires. Et sur vos tabourets de bar, est-ce votre vie que vous comptez ou celle que vous voulez avoir? Comme j'aimerais vous voir sourire, monsieur. Comme j'aimerais vous voir sourire, monsieur. Alors vous parlez de la mort comme si vous n'en aviez pas peur. Et là, ironie du sort, viennent vos pleurs. Et effondrés sur votre comptoir, monsieur, bizarrement, j'aime votre désespoir. Et effondré sur votre comptoir, monsieur, c'est déjà la fin de vos mémoires. J'ai inventé un bistrot tout près de chez moi. Pour ce poète, pour ce poivreau et pourquoi pas. Je me suis glissée dans ce bistrot à petits pas. Pour voyager dans son histoire qu'on ne croit pas. Il y avait trop de vent sur la mer et trop de vagues dans son verre. Et il s'est noyé cette fois.
Dissonance.
Va devant, pousse.
Avec Camille Devoile.
Tatane au dernier, allez mon chien.
Et alors, est-ce que tu pensais que le boulot de bergère, c'était ça?
Je t'avoue, j'avais pas trop de fantasmes, moi, sur le métier du berger. J'avais pas trop... Après, moi, des bergers, j'en avais rencontré en montagne, vu que j'étais accompagnatrice. Oui. Du coup, je voyais un peu les troupeaux, et j'avais rencontré des mecs, pareil, avec qui j'avais discuté un peu sur voilà, leur journée, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça. Si tu veux, c'était pas le métier fantasmé ou... C'est vrai que c'est un métier pas mal à la mode, je crois. J'ai l'impression, ouais.
Et qui se développerait alors?
Ben déjà, en tout cas, il y a du boulot. Hein. Si t'es berger, tu trouves du travail sans problème, quoi. Ouais. Et presque quasiment toute l'année, si t'en as envie. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est avec l'arrivée du loup, du coup, le métier de berger, il faut du berger. Faut et du coup, tu trouves du travail, quoi. Enfin, moi, ma première embauche en tant que bergère, enfin, c'était pas vraiment bergère, c'était être bergère déjà. Ben du coup, c'était parce que les éleveurs, ils étaient subventionnés par l'Europe pour m'embaucher, quoi.
D'accord.
Donc, quelque part, moi, c'est le loup qui me donne du travail, quoi. Bon, après, même avant l'arrivée du loup, ça a toujours existé, ça, des troupeaux qui partent en transhumance l'été, dans les Alpes, dans les Cévennes, dans les Pyrénées et tout ça. Mais du coup, avec le loup, c'est que maintenant, on a des postes à deux. Donc, tu as le berger et l'aide-berger. Donc ça te permet, tu vois, de pas avoir ce côté solitaire du berger où t'es solo. Moi toute seule bergère, j'aurais pas fait. Hein. Moi ce que je trouvais chouette, c'était que t'étais à deux, du coup tu partageais le moment, tu vois. Parce que moi la solitude, moi je suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Faut l'accepter quand même, hein, d'être seul avec tes bêtes pendant 4 mois. Enfin les moments durs et les moments beaux, des fois t'as envie de les communiquer, quoi.
Et c'est un boulot qui est très très masculin ou qui se féminise ou ça... Tu parlais de copines qui faisaient ça.
Moi, je connais pas mal de femmes qui font ça, ouais. Après, pourquoi ça attire les filles? Je pense que, déjà, basiquement, la brebis, c'est petit, c'est léger. Techniquement, on peut les soigner, c'est pas comme une grosse vache. Bon, après, il y a plein de femmes qui sont vachères, hein, je dis pas. Et l'avantage quand t'es berger, c'est que déjà, d'une part, tu trouves du travail facilement. Parce que je te dis, du coup, tous les étés, c'est la saison. Et voilà, il y a du taf, quoi. Tu galères pas trop à trouver. Et après, t'as ce côté aussi où tu voyages, quoi. Tu fais une estive pendant un an ou deux. Si au bout d'un moment, tu commences à t'enlacer, tu changes de massif, tu vas voir ailleurs. Tu rencontres d'autres gens, tu rencontres une autre vallée. Enfin, tu vois, t'as ce côté un peu en mouvement... que moi j'aime bien, quoi.
Tatane, allez, viens, allez. Allez, bougez de là. Viens.
Il n'y a pas de structure, Camille, qui s'indique, je ne sais pas, les bergers pour les défendre?
Si, ça existe. T'as des associations.
Ah ouais.
Je sais que dans le 06, tu as une association de bergers qui justement a milité pour essayer de faire une convention par rapport au salaire, parce que c'est un métier qui n'est pas du tout valorisé. Et souvent, tu vis dans des cabanes super précaires.
Tu bosses 9-10 heures, tu disais tout à l'heure.
Ouais, non, mais encore, je suis gentille. Quoi.
Ah oui, bien plus.
Ouais, des fois, parfois, tu fais 12 heures, 14 heures, surtout l'été. Quoi. Au mois de juillet, par exemple, tu travailles beaucoup, ouais.
T'es pas payé à l'heure, le contrat?
Ah non,
pas
non,
ça,
non.
Quoi,
alors, si tu commences à compter tes heures, je pense que du coup tu.
Tu es payé en fonction de l'état du troupeau, en fonction de la durée de...
En général, c'était payé 1008, 2000. Parfois, ça peut monter à 2005, mais ça, c'est justement dans le 06, là où ils ont réussi à faire une convention. Souvent, t'es mieux payé du coup, parce que justement, l'association a fait ce travail d'essayer de protéger les bergers sur ça, sur l'exploitation, quoi. Parce que c'est mal payé, quoi, c'est clair.
L'exploitation, il y a, il peut y avoir.
Ouais. Et surtout que là, en ce moment, ça se fait de plus en plus. Tu as des gros éleveurs du sud, donc c'est des types, ils ont 2000 moutons, et ils partent en transhumance dans les Alpes. Et en fait, ils embauchent des mecs de l'Est et ils les payent 1400. 1400 ouais, pour du non-stop pendant 4 mois où tu travailles, je te dis, 10-12 heures. Et puis en plus, c'est des mecs qui ils travaillent super bien. Et voilà, et les éleveurs, ils en profitent, quoi. Donc ouais, donc il y a des associations quand même. Et maintenant là, ça va beaucoup mieux. En termes de logement, les cabanes sont beaucoup mieux équipées qu'il y a une dizaine d'années où tu te retrouvais dans des grottes où c'était bétonné, hyper humide, pas d'élec, pas de flotte, voilà quoi.
Chaque fois que tu vas trouver un boulot, il faut qu'on te garantisse un hébergement. Qui peut être une cabane ou qui peut
Sûr. Ouais. Et voilà, elle est en face. Non, je veux pas qu'elle y aille.
Ah, c'est pour ça que t'es d'accord.
Donc, elles me font une résistance, là. Un bon gros tas de laineuses qui attendent.
Qui attendent que je les laisse passer, quoi. Ah ouais, c'est fabuleux, cette psychologie de l'animal, quoi.
Non, reparler des logements, là, un peu insalubres quand t'es berger, c'est ça aussi, c'est que tu... toute la journée, déjà, t'es dehors. Enfin, physiquement, c'est quand même un métier qui est quand même... assez éprouvant, t'es quand même bien crevé le soir. Et du coup, si tu peux pas un peu te reposer dans une cabane qui est à peu près correcte et avoir un peu d'eau chaude pour te laver, le minimum, quoi. Tatane ! Elle est où, la chienne ? Disparition du chien. Tatane ! Ah, c'est là. Là, allez, pousse-le. Aïe !
Camille, est-ce que tomber sur un groupement pastoral ou un éleveur qui est à la FNSEA ou à la Confédération Paysanne ou alors qui fait du bio ou qui fait de l'intensif, c'est garant de...
Ben un peu quand même. Après, il y a des gros cons à la Confédération Paysanne aussi, je pense. Quoi.
Fait, ouais,
parce que de toute façon, encore une fois, c'est les rapports patron-salariés et du coup, tu peux tomber sur des gens qui sont pas respectueux de tout simplement de la personne qu'ils embauchent, quoi. Et après tu peux avoir, par exemple, le patron pour qui on travaille, il est un peu pingre au niveau des salaires, il va un peu être là toujours, un peu à rechigner, à bien te payer, tout ça. Mais par contre, c'est quelqu'un. Je veux dire, t'es en montagne, il sait très bien dans quelles conditions tu travailles. Et du coup, c'est quelqu'un qui est montagnard. Donc, c'est-à-dire, quand il va venir te voir, il va toujours te monter une miche de pain, un bout de fromage. Enfin, tu vois, c'est ces gestes-là aussi qui sont super importants parce que quand t'es là-haut, tu manques toujours de frais, t'as toujours besoin de légumes, de fruits, t'en as pas. Donc, c'est des gens qui ont ce savoir-vivre qui te font toujours du bien, quoi. Voilà, donc parfois, tu vas tomber sur des patrons qui vont être chiants au niveau du salaire, mais par contre, qui vont te respecter sur ces choses-là. Et d'autres, ça va être... tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est un tout, quoi. Enfin, c'est... Voilà.
Courant, courant, bergère, vois-tu briller là-bas le toit de ma chaumière. Il nous abritera, voici notre cœur. La porte va s'ouvrir, ma mère et ma sœur Anne viendront nous accueillir. Bonsoir, bonsoir ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'emmène ma bergère près de vous pour ce soir. J'emmène dans l'étable ses brebis, ses agneaux, et mettons sur la table laitage et fruits nouveaux. On soupirait, on chante, l'orage s'est calmé, une amitié touchante. Bientôt la bergerette, lassée, fermant les yeux, s'endort dans ma chambrette, fait tes rêves. Oh, oh, yeah.
Dissonance.
Va devant, pousse.
Avec Camille Devoile.
Tatane au dernier, allez mon chien.
C'est quoi ta définition du pastoralisme? C'est bouger, c'est être transhumant, c'est plus que ça?
pastoralisme, en fait, c'est tu fais manger, pour moi, hein, après moi, la définition exacte, je ne l'ai pas, mais c'est tu fais manger des landes, des friches, du sous-bois, de la pelouse. Enfin, en fait, du coup, ce qui te vient naturellement dans la nature, voilà, ce qui vient naturellement, comme ça, qui pousse tout seul, que tu as sous le pied. Voilà, c'est pas, si tu veux, c'est pas des terres que tu as cultivées, que tu as semées. C'est ce que tu vois là, quoi.
C'est naturel, quoi.
Voilà. Ouais.
Mais sur des terres mais sur des terres à toi qui appartiennent à l'éleveur. Tu peux pas les faire manger n'importe où, si.
Tu peux pas les. Après, tu peux demander l'autorisation à des privés aussi. Tu vois, tu peux dire, ben voilà, là j'ai repéré que vous avez ce bois-là qui est pas mangé. Est-ce que ça vous intéresserait que nous on y passe avec notre troupeau? Et puis en plus, tu fais de l'entretien, quoi. Tu fais de l'entretien de paysage. Tu réouvres des espaces parce que là, du coup, tout ce que tu vois là, c'est. Quelque part, je te dis que c'est naturel, mais non, c'est pas naturel parce que t'as la main de l'homme qui a fait que du coup c'est comme ça. Si c'est naturellement, en fait, ça serait de la forêt ici. Tu vois, voilà, ça ressemblerait. Il y aurait la même couleur partout, ça serait du bois, quoi.
Ouais, tout à fait. Et les espaces déboisés, donc, c'est les moutons, les brebis.
C'est grâce aux éleveurs. Voilà. D'accord. Et vu que, de toute façon, le Cosmégen, c'était à la base, c'était une. Il y avait beaucoup de transhumants du Gard, en fait, qui venaient ici faire manger leurs troupeaux. Donc, c'est eux, ils ont coupé du bois, après, ils ont fait passer leurs bêtes, et ça fait que, du coup, le paysage est ouvert, quoi. Voilà. Et moi, j'aime bien ce côté-là du métier où tu fais pas que de l'agneau, en fait. J'aime bien me dire que je crée du paysage.
Ah, oui.
Et je participe un peu aussi à la biodiversité, parce que... tout serait forêt, si tu veux, tu n'aurais que la biodiversité de la forêt. Alors que de faire aussi des milieux un peu plus ouverts, d'entretenir des friches, ça fait que du coup, la nature nous offre plein de choses, quoi. J'ai l'impression que de faire ça, pour moi, ça a du sens, quoi.
Ouais.
Dans le côté mon rapport avec la nature et j'ai l'impression de participer quelque part à quelque chose qui est intéressant du point de vue l'écologie.
Tout à fait, tu le fais pas de façon militante ou comme
non. Enfin,
mais tu le fais, c'est ouais, tu le vis.
Quand j'ai découvert le métier de bergère, j'ai découvert aussi qu'il existait encore en France, en fait, des gens qui étaient nomades. Et en fait, c'est des herbaciers. Et du coup, ces gens-là, en fait, ils vont toujours chercher l'herbe pour leurs bêtes. Et du coup, en fait, ils cassent un peu ce truc de la propriété privée. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'exploitation, eux, ils font juste manger de l'herbe un peu de partout, là où ils en trouvent, quoi. Donc, des fois, ils peuvent faire manger des ronds-points, ils peuvent faire manger des zones industrielles. Enfin, c'est souvent plus du côté du Gard, du Var, Vaucluse et tout ça qu'il y a ces gens-là. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils lâchent leurs bêtes dans des zones... De toute façon, là-bas, tout est privé, j'imagine, un peu comme partout. Mais du coup, voilà, ils vont pas forcément demander à qui c'est au départ et l'autorisation, quoi. Ils se permettent, en fait, de c'est que de l'herbe, de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu peux pas leur dire « c'est chez moi !» Et moi, j'aime bien ce côté libre, en fait, aussi, que t'as avec ton troupeau, où du coup, tu casses un peu ces trucs-là qu'on a tendance à avoir partout et qui, parfois, moi, je m'exaspère, quoi. C'est un peu de la piraterie moderne, enfin moderne même pas, hein, parce que je pense que ça a toujours un peu existé, mais ça perdure. Et du coup, voilà, je trouve que c'est chouette de se dire qu'il y a des gens encore qui vivent comme ça. Bon, après, c'est hyper marginal, hein. Après, c'est des gens, voilà, ils vivent qu'avec leur troupeau, et voilà, ils vivent en camion, sur une paillasse, et puis, mais bon, ils ont la belle vie aussi, quoi. Quelque part, la condition paysanne, c'est compliqué parce que de toute façon, la plupart vivent avec les primes et que du coup, en fait, tu n'es pas autonome, quoi. Tu ne vis pas de la vente de tes agneaux, quoi. Sauf les herbaciers, les pirates. Eux, du coup, justement, ils vont à contre-courant de tout ça, quoi. Mais par contre, ces gens-là ne vivent pas des primes, quoi. Ils peuvent pas vraiment, ils peuvent pas toucher ce qu'on appelle les primes. T'as les DPB, l'ICHN, la Primovine, enfin t'as 10 milliards de primes, quoi. Mais eux, ils vont à contre-courant de tout ça et ils vendent que pour l'Aïd. c'est-à-dire pour la fête des musulmans, et ils vendent leurs agneaux. Et eux, du coup, ils sont détachés de ça, ils sont libres à ce niveau-là. Katan, viens. Ah, tu vois, il faut être tout le temps concentré. Surtout qu'en fait, les pistes, ça te casse le biais en permanence.
Quoi. Les pistes ?
Les pistes, ouais.
Ah oui, oui, oui.
Parce que voilà, elles s'endraillent et puis elles réfléchissent plus et elles sont là, gne, 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 on avance. Et c'est ce qui s'est passé là, tu vois.
Ah ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le métier de bergère, hein ?
Ben, je dirais que c'est un beau métier déjà, que c'est bien d'avoir choisi ça. Enfin, d'avoir envie de faire ça. Le mieux, c'est de rentrer dans le bon réseau, quoi. C'est-à-dire d'essayer d'aller voir plusieurs bergers pour avoir un peu leur avis. Puis après, d'essayer de ne pas se cantonner à une seule expérience, quoi. Il faut aller ailleurs parce qu'il y a plein de façons de faire. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que... Enfin, voilà, d'une ferme à une autre, d'une estive à une autre, avec d'un berger à un autre, d'un éleveur à un autre. Tu as plein de façons de faire, tu as plein de races de brebis différentes qui se comportent pas de la même manière. Et du coup, voilà, l'idée, c'est qu'il faut essayer d'aller piocher un peu le maximum d'infos pour comprendre en fait au mieux. Ce qui est difficile, c'est que des fois, en fait, t'es un peu lâché en montagne comme ça et tu dois te débrouiller. Après, c'est la bonne école hein, de se dépatouiller avec toi, tes connaissances, et puis tu te débrouilles bien. Hein. Mais après, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, tout de suite, en fait, j'avais les gens qui m'accompagnaient et qui m'ont tout de suite transmis en fait tout ce qu'ils connaissaient. Voilà. Donc, du coup, c'est bien d'avoir quand même d'être entouré de gens qui ont envie de transmettre et qui t'expliquent, quoi.
Parce que ça existe une école de formation,
ouais,
existe un CAP de berger.
T'as l'école du Merle, t'as une école aussi dans les Pyrénées.
D'accord.
Où du coup, ouais, tu peux te former. Voilà. Oui, tu peux passer par l'école aussi. Hein. Je crois que c'est des bonnes écoles, hein, mais j'ai des bons retours hein, là-dessus.
Et les écueils à éviter dans ce métier ?
Moi, c'est plus par rapport... Enfin, moi, je dirais la galère, c'est plus ton statut de salarié et des fois de tomber sur des patrons à la con, quoi, tout simplement, quoi. Donc, savoir se défendre sur tes droits, les conventions, les salaires, faire en sorte d'avoir les bonnes questions, en fait. Te poser les bonnes questions en premier lieu quand, en fait, une personne cherche un berger. Après, tu l'appelles et tu poses des questions sur la montagne. Il faut avoir les bonnes questions sur savoir, par exemple, combien il y a de cabanes, combien il y a le nombre de bêtes, est-ce qu'il y a une marque, deux marques, trois marques, parce que c'est des fois, tu as des regroupements pastoraux, donc tu as plusieurs bergers qui mélangent leurs bêtes ensemble. Et du coup, là, c'est plus compliqué parce que les bêtes elles-mêmes ne se connaissent pas. Donc, chaque troupeau reste ensemble, mais du coup, c'est plus complexe, quoi. Mais voilà, ce genre de questions qui font que, du coup, la montagne va être plus compliquée que d'autres. Après, je sais pas, des fois, ça peut se jouer en termes de dénivelé, si c'est une montagne qui est escarpée. Deux minutes, il faut que j'envoie le chien.
Vas-y.
Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé. Et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier. Enfant de cette nation et fils d'aventurier, métis et sans mêlée, bien qu'on me l'ait caché, c'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté.
Suisse.
Je n'aime pas la croix. Une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.
Dissonance.
Va devant, pousse.
Avec Camille Devoile.
Tatane au dernier, allez mon chien.
Donc tu disais tout à l'heure que tu avais eu affaire au loup. Dans les
ouais,
dans
moi,
tes estives.
Ça nous, moi, ça m'est arrivé une fois ben, en Savoie. Du coup, la, l'estive, là, que ça fait. On va y repartir pour une troisième année. Et en fait, la première année, on nous a, le loup était tout autour. Donc, tous nos, nos voisins bergers et vachers avaient affaire à lui. Nous, on a été épargnés, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup on s'est permis de faire à un moment donné, à continuer à faire du libre. Faire du libre en fait c'est laisser tes brebis dormir là où elles veulent.
Là où elles veulent, d'accord.
Et donc souvent elles se mettent dans, au sommet parce que c'est là où l'herbe est la meilleure,
ah,
la
ouais.
petite herbe fine. C'est vraiment la pelouse alpine parfaite. Et du coup c'est, on s'est permis de continuer à faire ça, il n'y avait pas loup, c'était impeccable. Et c'était vraiment le seul moyen de faire manger cette zone-là. Parce que c'était beaucoup trop loin en fait. Parce que après t'as ça aussi à gérer. C'est les déplacements quoi. Si, si tes brebis tu vas les chercher tout là-haut et que tu les fais redescendre tout en bas parce que tu sais on fait des parcs filets électrifiés pas très loin de la cabane pour justement avoir ce regard et protéger ton troupeau du loup quoi. Et de faire du libre ça a cet avantage là de du coup tu les laisses en haut, elles sont en plus en semi-liberté donc psychologiquement je pense pour les troupeaux c'est bien aussi. Toute la journée tu les gardes quand même, mais à partir en général c'est en milieu d'après-midi vers 4-5 heures tu leur donnes le biais pour qu'elle mange quand même une zone que toi tu as choisi, Et ensuite, tu sais, elles vont toujours se poser un peu aux mêmes endroits, tu sais, des endroits de prédilection où elles aiment bien dormir parce que voilà, c'est sur la crête, elles peuvent vérifier elles-mêmes s'il y a un danger, tout ça. Et
elles sont accompagnées de chiens, là.
Et là, ouais, ben moi, le problème, c'est que là où on est en Savoie, il n'y a pas de patou, quoi. L'éleveur, il refuse. Il refuse. Donc, la première année, on a fait du libre, on ne s'est pas fait attaquer, donc on était trop contents. Parce que les bêtes, elles profitent vachement, mieux quand, à un moment donné dans la saison, quand elles peuvent, parce que le soir, elles peuvent se finir toutes seules, elles peuvent manger très tard. Alors que toi, à un moment donné, toi aussi, il faut que tu manges, il faut que tu rentres vers 21h, 22h, tu veux rentrer, quoi. Donc, tu les parques. Et donc, première année, nickel. Et seconde année, on s'est fait attaquer justement un jour où on les avait laissés dormir là où elles voulaient, quoi. Voilà. Et là, du coup, tu vois que c'est violent quand même. Parce que les bêtes, on les a retrouvées dans des canyons. Il y avait 5 ou 6... Je crois qu'il y avait 6 bêtes de mortes et je sais plus, et 4-5 blessés. Mais blessés, c'est-à-dire que, tu vois, agonisantes, quoi. Donc, c'est... ouais, c'est dur, quoi. C'est dur à voir, c'est... Tu pleures, tu... Après, t'as une parano qui se met en place... où t'es jamais confiant, t'as toujours l'impression qu'il va, de toute façon, maintenant tu sais qu'il est là, tu... Donc ouais, c'est un peu stressant quand même. Hein. Moi j'avoue que... Il n'y a que quand ça t'arrive en fait que tu t'en rends compte vraiment de ce que ça fait en fait le loup. C'est violent, moi j'ai vu que c'était violent. C'est très violent à voir.
Et c'était une meute ou c'était un animal isolé?
Je crois que c'était un animal isolé, ouais. Moi on m'avait dit, parce qu'après on s'est renseigné quand même. Et a priori, c'était un loup tout seul. Voilà, bon, après, tu vois, il est venu qu'une fois. Donc, tu peux te dire, bon, on t'autorise à aller à prendre trois bêtes sur la... En fait, ça serait bien, tu vois, que le loup, juste, il vient de temps en temps, il prend une bête. Bon, tu lui offres, quoi. Tu dis, bon, ok, on partage, quoi. On est sur ton milieu, on est dans ton milieu. Ça peut être un petit deal, quoi. Mais sauf que le loup, lui, non, quoi. C'est un, ça suffit pas, quoi. C'est, après, t'as le côté, je pense que l'agitation des bêtes qui font que ça part dans tous les sens. Et le loup, ça doit l'exciter. Et du coup, tu vois, il croque partout, il blesse, il. Voilà.
Cette année, vous allez repartir, pareil, avec des patous, sans patous.
Toujours sans patous, parce que notre éleveur ne veut pas en mettre.
Il veut pas, quoi.
Ouais, il veut pas s'embêter. Parce que t'as vu, les patous, c'est quand même... une fois que tu les as sur ta ferme, voilà. Hein, c'est je sais pas combien de kilos de croquettes pour les nourrir.
Bêtes, ouais.
Et puis tu vois, quand tu les as en bergerie, c'est pas... Enfin, disons que c'est une petite contrainte en plus, quoi, quand même.
Il n'y a pas eu des subventions pour que les gens puissent avoir des patous?
Si.
Ça suffit pas, quoi.
Si, après, c'est pareil, c'est un travail en plus, parce que tes patous, après, il faut quand même que tu... C'est comme des chiens de conduite, quoi. T'as des bons et des mauvais. Il faut quand même qu'ils se placent bien par rapport au troupeau, qu'ils fassent bien son travail. T'as tout un travail aussi de sélection aussi. Bon, après, t'as aussi des associations qui peuvent te suivre et t'aider. Hein. Mais voilà, il faut avoir la volonté de toute façon. Il faut avoir une volonté de l'éleveur pour se protéger du loup et. Et voilà, il faut qu'ils acceptent aussi d'être aidés financièrement et de... Ouais.
Toi, tu vas bientôt basculer... Enfin, c'est quand que tu vas basculer de bergère à...
Là, on est sur une opportunité, là. D'accord. Donc, c'est peut-être cette année.
D'accord.
Peut-être.
Toi, tu vas accepter d'avoir des patous, de faire toujours de la semi-liberté?
Ben, nous, on veut être transhumants et puis on veut faire du pastoralisme. Donc, dans tous les cas, on sera confronté au loup. Donc, je pense que oui, bien sûr. On va faire en sorte de pouvoir se protéger de lui, quoi. Va devant, pousse. Dernier, là-bas. Tatane au dernier, allez mon chien. Allez, pousse.
Avec son compagnon Daniel, allez, berger pousse. Lui aussi, Camille va se lancer dans le métier de l'élevage des brebis. Ils seront propriétaires de leur troupeau et arrêteront de garder celui des autres. Mais Camille et son compagnon ajoutent une autre dimension à leur projet. Ce sera une aventure menée avec des accompagnateurs en montagne, comme elle nous l'explique.
Du coup, eux, ils viennent avec des groupes et moi, je leur explique notre métier, les bêtes. Et puis nous, c'est un peu l'occasion pour vendre des rillettes de chevaux aussi. Et du coup, c'est un peu, tu vois, allier les deux et puis aussi faire... pas éduquer les gens, mais vu que c'est des randonneurs et qu'ils pratiquent la montagne, c'est bien aussi qu'ils voient en fait ce qu'on fait pour après mieux comprendre et puis aussi après pas plus nous respecter, mais moins, parce que souvent quand les touristes ils montent en montagne, ils vont te traverser le troupeau sans faire attention, alors que nous des fois, tu vois, là je me suis embêtée pour que les brebis elles prennent cette direction-là, et quand t'as des types, des groupes qui traversent tout, et ben ça te casse en fait ta direction, ton biais, et pour eux ils peuvent pas savoir ça, donc tu vois, pour expliquer ce genre de choses, et surtout aussi pour leur parler de l'agriculture qu'on fait. Et pour qu'après, qu'ils consomment plus intelligemment et pour les inciter aussi à leur montrer que, oui, peut-être que nous, on est des tueurs d'agneaux, mais que nos agneaux, ben, ils sont élevés à l'herbe, que nos brebis, on les garde 10-13 ans dans notre troupeau, donc on a vraiment un lien avec nos bêtes, on les aime et je pense qu'elles nous aiment aussi, enfin j'espère que c'est pas un leurre, mais oui. Et que du coup, on agit aussi sur la nature, quoi. Enfin, que par sortir nos bêtes, c'est aussi entretenir l'espace, comme je t'expliquais tout à l'heure. Mettre de la fumure pour enrichir les parcours.
Et donc, est-ce qu'il en existe d'autres structures comme ça, ou qui feraient ça, qui allient l'accueil des randonneurs et la visite de l'exploitation, enfin de l'exploitation de l'élevage? Ça existe, ce genre de choses, ce que vous allez créer.
Des gens qui font du lien comme ça, ouais. Qui essayent de mettre... Ben là, du coup, moi, j'ai demandé aux accompagnateurs en montagne de Savoie de faire ce taf-là, quoi.
D'accord.
Eux, ils me font la com, tu
D'accord.
vois.
Okay.
Et moi, je leur propose des journées pastorales avec aussi, tu vois, un repas, parce que les gens, ils adorent ce côté bon vivant, ou voilà, tu les fais se balader toute la journée, et puis après, tu leur proposes un super repas avec, ben, pour le coup, de la bonne bouffe, quoi. Et ben voilà, du coup, je pense que l'un dans l'autre, c'est parfait, quoi. Enfin, ça peut bien faire.
Ouais.
Et puis nous, ça nous permet aussi, tu vois, de... Parce que dans ces métiers-là, tu as ce côté aussi, du coup, faut pas non plus trop tomber dans le mouton, quoi. Parce que, je sais pas comment dire, ça... Quelque part, ça marginalise un peu, parce que du coup, ça te prend tellement tout ton temps que parfois, en fait, tu oublies le reste du monde et ça t'enferme. Ouais. Et en fait, là, je vois que moi aussi, je peux devenir rustre un peu. Le temps qu'on passe avec nos bêtes, ça nous demande... Enfin, Moi, je passe 10 heures avec mon troupeau et... Bon, oui, j'arrive parfois à lire, j'écoute la radio.
Et donc, ouais, ça serait une ouverture quand,
voilà,
à l'extérieur.
Voilà, c'est ça. Et puis, en plus... quelque part, c'est un peu aussi pour faire de la pub pour ce qu'on fait et puis essayer de convaincre les gens de manger intelligemment, de choisir leurs produits, puis de les remettre en lien un peu avec le monde paysan. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui et depuis longtemps, les paysans, ils sont vachement montrés du doigt comme quoi, ben voilà, on est des pollueurs, on fait ci, on fait ça, on est des esclavagistes parce qu'on fait de la domestication, on est des tueurs, on est des... Enfin, en ce moment, on n'a pas trop la cote, quoi. Et du coup, c'est aussi pour... c'est en discutant que du coup, tu fais... Ben, t'expliques et j'espère que du coup, les gens, ils vont... comprendre tout ça et oui. Avec le berger. Alors du coup, ça c'est pareil, c'est pour un peu casser le côté berger, béret. Non, en fait, tu peux être berger et puis venir de la ville. Hein, tu peux être, enfin, dans le milieu des bergers, t'as aussi beaucoup d'écologues, quoi. Enfin, de gens qui connaissent très très bien la nature et qui peuvent expliquer plein de choses au passage. Tatane. Allez, pousse-les. Aïe. Après ta brebis, c'est ta famille, c'est tes amis quoi. Ouais, c'est avec les agneaux que moi j'essaye de pas trop. Tu sais que voilà, ça va partir en boucherie. Ah non mais ça, ce serait top hein, d'avoir des brebis que pour la laine. Moi, je serais partante. Hein.
Ah ouais.
Parce que du coup, c'est vrai que t'as pas ce côté où tu vois tes bestioles partir à la boucherie.
C'est bergère à éleveuse, c'est un truc normal ?
C'est assez courant, je crois, ouais. Je crois qu'au bout de... En général, j'avais lu dans un bouquin, là, qu'en moyenne, t'es berger salarié pendant, en général, 6-7 ans, et puis souvent, après, t'as envie d'avoir ton propre troupeau et d'avoir ton troupeau que tu fais à ta main, quoi. Enfin, nous, on sait que ce qu'on va faire, ça sera pas rentable. Mais après, ce qu'on cherche... Enfin, en fait, si tu veux, on sera pauvre, mais de toute façon, on aura toujours de quoi bouffer, quoi. Parce que si tu veux, ton troupeau te donne cette liberté, l'autonomie alimentaire. Ça te permet d'avoir accès tout bêtement... Enfin, je veux dire, t'as des bêtes, les gens peuvent pas te virer parce que t'as des animaux, il faut les faire manger. Donc les gens, ils vont pas te laisser... En fait, ils pourraient te laisser crever la dalle, toi, mais pas les animaux. Parce que c'est les animaux et les gens se rapportent bizarroïdes d'être là, le petit chien, le petit mouton, le truc. Toi, t'es sous la drache, ils en ont rien à foutre, ils vont plus plaindre les bêtes que toi. Mais bon, voilà. Mais du coup, d'avoir ton troupeau, ça te permet ça, quoi. L'autonomie alimentaire, tu fais de la laine, tu fais du cuir, tu fais de la viande, tu fais du lait. Enfin, c'est un produit qui est de luxe. Donc du coup, c'est une monnaie d'échange aussi. Donc ça, je veux dire, tu vas pouvoir le troquer avec le copain qui fait du maraîchage, qui fait des fruits, qui fait... Enfin voilà, tu es pauvre, t'as pas d'argent, mais par contre, tu es autonome, quoi. Avoir cette liberté... Enfin moi, je me sens libre, quoi. Après, c'est peut-être un leurre, peut-être que je me trompe, mais je trouve que... Dans notre société aujourd'hui, se sentir libre, ça veut dire qu'un peu on a réussi, quoi. Parce que les gens pas libres, il y en a plein, quoi. Enfin, qui sont dans un processus où ils n'arrivent pas à se dépatouiller, de s'enlever de choses.
C'est une magnifique conclusion, Camille. Merci beaucoup.
La programmation musicale est détaillée sur notre page internet et bien entendu, cette émission y est téléchargeable et podcastable à votre guise.
Cette émission est rediffusée sur nos ondes le mercredi 29 mai à 14h et le samedi 1er juin à 16h. Salut
et fraternité.
Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets, des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitants. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous. Joyeuses, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.